Nous avons entendu le tout début de l'évangile selon saint Luc, où saint Luc explique comment il a mené l'enquête pour pouvoir rédiger son évangile en se fondant sur les témoignages des témoins oculaires depuis le commencement. Et saint Luc s'adresse à un certain Théophile, qu'il appelle excellent Théophile. Théophile, c'est un prénom qui signifie celui qui aime Dieu, Théophile. Et du coup, ce prénom, nous pouvons le recevoir pour chacun de nous, car si nous sommes ici, c'est que nous avons un attachement au Seigneur. Et donc l'avertissement de saint Luc s'adresse aussi à chacun de nous aujourd'hui. Excellent Théophile, l'attention que Luc requiert de son lecteur, c'est l'attention qui est aussi la nôtre. Mais l'évangile de saint Luc a été écrit à peu près entre 80 et 85 de notre ère. Alors on peut se dire, mais c'est bien tard quand même. La mort de Jésus, c'est vers 33. L'évangile de saint Luc, c'est vers 80. Alors celui de saint Marc, il est un peu plus ancien, il date de 70. Celui de saint Matthieu, c'est à peu près la même chose que saint Luc. Celui de saint Jean, c'est plutôt 90. Alors on peut dire, mais quand même, par rapport à la mort de Jésus, 33 et puis 70 pour le plus récent, ça fait quand même près de 40 ans qui sont passés. Comment ça se fait qu'on ait attendu autant de temps? En fait, on ne pensait pas en avoir besoin. Il faut d'abord commencer par dire ceci. Après l'ascension de Jésus et après la Pentecôte, les apôtres et les premières communautés chrétiennes pensent que la venue glorieuse de Jésus, c'est pour très bientôt. C'est pour dans une semaine, c'est peut-être pour demain, c'est peut-être pour dans 2 mois, 6 mois, une année peut-être. Mais quand vous lisez la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens, qui est écrite 53 ou 55, saint Paul parle comme pensant être vivant. Il dit « Quand le Christ viendra dans la gloire, les morts ressusciteront, et nous, qui serons encore vivants, nous serons transformés. » Au départ, on se dit, mais c'est pas la peine d'écrire quelque chose parce que les apôtres eux-mêmes sont l'évangile vivant. Les apôtres sont les témoins du Christ remplis de l'Esprit Saint et par leur prédication, par leur présence, nous avons accès à la bonne nouvelle. Il n'y avait pas besoin de rédiger un évangile. Et puis le temps passe. Le temps passe et alors on voit que dans les lettres de saint Paul, il y a une évolution. Saint Paul semble ne plus être sûr d'être encore vivant lorsque Jésus viendra dans la gloire. On voit même dans la deuxième lettre de saint Pierre une mention qui répond à cette interrogation que la communauté chrétienne commence à se poser. Est-ce que le Christ tarde? Est-ce qu'il est en retard? La deuxième épître de saint Pierre nous dit non, il n'est pas en retard. Dieu patiente pour que nous ayons chacun le temps d'entrer dans la miséricorde et que l'évangile soit proclamé sur toute l'étendue de la terre. Alors quand on entend l'étendue de la terre à cette époque-là, au départ on imaginait la terre, c'est l'Empire romain. Mais on va découvrir en fait qu'il y a au-delà de l'Empire romain. Et puis on se souvient aussi, et saint Pierre le relève, pour Dieu le temps n'est pas vécu exactement comme pour nous. Pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Alors quand on entend ça, on dit, oh là oui, c'est effectivement, c'est pas vraiment la façon dont moi je perçois le temps. Mais le peuple juif, dans son histoire, y a été habitué. Rappelez-vous Abraham. Abraham reçoit la promesse de la naissance d'Isaac quand il a 75 ans. À quel âge s'accomplit cette promesse? Quand il en a 100. Ça fait quand même 25 ans qui ont passé. Judas, pas celui qui a trahi Jésus, un des fils de Jacob, reçoit la promesse de la royauté. Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham. Et la royauté, on va la voir arriver en Israël presque 800 ans après, avec David. David reçoit la promesse du Messie. Et cette promesse s'accomplit 900 ans après David. On a l'habitude au sein du peuple juif de la durée des promesses du Seigneur. Mais il se passe quand même quelque chose, c'est que avec le temps qui passe, il y a aussi les persécutions et les apôtres qui commencent à être mis à mort. Saint Jacques, ça a été le premier à être mis à mort. Puis, vers 63, 64 ou 65 au plus tard, Pierre et Paul sont martyrisés à Rome. Saint Pierre est crucifié la tête en bas, Saint Paul est décapité. Et là, on comprend une chose. C'est que si les apôtres sont martyrs, pour que la parole de Jésus continue de s'accomplir, « Vous ferez cela en mémoire de moi », il va être nécessaire de se donner un nouvel outil. Il va être nécessaire de se donner un outil qui permette d'avoir accès à la bonne nouvelle du Christ. Et il y a une inspiration particulière de l'Esprit-Saint qui va entraîner à ce moment-là la rédaction des évangiles. Vous voyez, la mort de Pierre et Paul, du coup, on va dire à peu près 64-65, le premier évangile 70, on est beaucoup plus proche alors, comme réaction. Et voilà qu'il y avait à l'époque des recueils des paroles de Jésus, et il va y avoir un travail de recherche, d'enquête des évangélistes, et aussi un travail de composition. Alors je voudrais là qu'on comprenne ce que c'est un travail de composition. Est-ce que les servantes de l'Assemblée sont toujours là? Oui? Très bien. Est-ce que les servants d'hôtel sont toujours là aussi, sont toujours vivants? Oui? Très bien. Je voudrais que vous reteniez ça particulièrement. Il y a un travail de composition. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les évangélistes ont parfois pris des événements qui se sont passés sur différents jours et les ont rassemblés sur un jour ou sur un épisode. Je vous donne un exemple qu'on pourrait nous avoir. Imaginez que quelqu'un vous demande, « Eh bien, raconte-moi un dîner en famille pour que j'aie l'expérience, ben voilà comment ça se passe, un peu l'ambiance d'un dîner dans ta famille. » Il est vraisemblable que vous allez prendre des petits épisodes qui viennent de plusieurs dîners. Ah, tel dîner parce que il y avait à ce jour-là le grand frère qui avait quelque chose d'assez caractéristique de sa façon de parler. On prendra peut-être tel autre dîner parce que là, c'est maman qui avait eu quelque chose qui était très particulier de son tempérament. On prend des petits épisodes, on va les mettre ensemble et on va faire un dîner qui, on pourrait dire de fait, n'a jamais eu lieu, mais qui ne fait que rassembler des éléments réel de la vie, mais ce dîner que l'on raconte va être l'image, va nous permettre d'avoir accès à ce à quoi ressemblait un dîner chez nous. Et donc, les évangélistes vont prendre des épisodes de la vie de Jésus et parfois les grouper. Et parfois les grouper pour que on ait accès, en fait, à ce que Jésus vivait avec ses disciples. Vous voyez que ce travail de composition n'est pas une trahison de l'histoire, mais en fait le moyen que nous ayons accès, que nous goûtions, que nous puissions nous représenter l'histoire de Jésus avec ses disciples et les fruits de cette histoire. Voilà que l'Évangile devient l'occasion d'une rencontre de la vie de Jésus avec ses disciples. Parfois, on se demande, mais est-ce que c'est fiable? Parce que maintenant aussi, ça fait très longtemps, les évangiles, quand même, c'est le premier siècle, et aujourd'hui, est-ce que ça s'est déformé? Il y a une chose que je voudrais soulever, c'est que nous connaissons des auteurs de l'Antiquité. Nous connaissons, par exemple, des auteurs comme Hérodote, comme Tacite, comme César, qui écrit la guerre des Gaules. On peut se dire, tiens, les manuscrits que nous avons de la guerre des Gaules, aujourd'hui, ils datent de quand? Les plus anciens que nous possédions, ils datent du Moyen-Âge, d'environ 900 ans. Alors, la guerre des Gaules, on n'a plus de traces, plus de manuscrits. Hérodote, 5 siècles avant Jésus-Christ, on n'a plus de manuscrits avant 900 ans de notre ère. Les évangiles, on remonte à des manuscrits, à des traces du premier siècle, de la fin du premier siècle. Je reviens sur la guerre des Gaules, on en a 10 exemplaires de 900. Des évangiles en grec, on en a plus de 5000. En latin, plus de 10 000. En d'autres langues, 9300. Les évangiles, ce sont les livres de l'Antiquité dont on a le plus de traces. Donc, il y a une fiabilité des évangiles qui est supérieure à celle de tous les autres textes de l'Antiquité que l'on peut étudier. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse parce que c'est bien parfois d'avoir quelques éléments historiques dessus. Mais je voudrais maintenant soulever un point qui est très important dans les évangiles, qui nous vient d'ailleurs de la tradition juive. Vous avez entendu dans le livre de Néhémie comment ça se passait. Le prêtre Esdras proclamait le livre de la loi. Et puis, il y avait les Lévites qui expliquaient. Et le peuple, ayant entendu Esdras proclamer, disait « Louange à toi, Seigneur !» Vous avez reconnu que quand on proclame l'Évangile, aussi, il y a une mention particulière à la fin. « Acclamons la parole de Dieu » et on a répondu « Louange à toi, Seigneur Jésus !» Ah, on n'a pas dit « Louange à toi, Père Gabriel Wurtz !» On a dit « Louange à toi, Seigneur Jésus !» On a reconnu dans cette proclamation la parole de Jésus elle-même. On a reconnu la présence de Jésus lui-même. Je voudrais souligner la qualité, le mode et l'intensité de cette présence, parce que ça c'est une chose que le prêtre dit à voix basse à la fin de l'évangile. Vous avez peut-être vu, j'ai pris l'évangile, je l'ai embrassé, et j'ai dit à voix basse que cet évangile efface nos péchés. Il ne peut pas y avoir d'effacement, de pardon des péchés, sans une présence de Jésus. On a là le signe de l'intensité, de la force, de la présence de Jésus ici. Et du coup, je vous invite à une chose quand on entend à la messe l'évangile proclamé par un ministre ordonné qui a un lien particulier avec Jésus. C'est que je peux entendre vraiment la parole de Jésus pour moi aujourd'hui. Et donc, souvent, on vient à la messe, on a plein de choses dans la tête, c'est normal. Et vous voyez que, avant de proclamer l'évangile, le prêtre prie. Nous aussi, nous devons prier. C'est pour ça qu'on aura ce triple signe de croix au départ. Seigneur, ouvre mon intelligence, que je puisse entendre, comprendre. Ouvre mes lèvres, que je puisse me nourrir de cette parole et la redire. Ouvre mon cœur, pour qu'elle y fasse sa demeure, qu'elle ne se disperse pas, mais qu'elle y reste. Parce que si nous faisons cette prière avec tout notre cœur, alors nous allons rencontrer le Seigneur mystérieusement à travers cette proclamation. Je voudrais évoquer un petit épisode pour montrer jusqu'où peut aller cette présence de Jésus. Peut-être que parfois, vous aviez un cousin au loin, et quelqu'un que vous connaissez, vous a dit « Tiens, j'ai vu ton cousin, il te passe le bonjour. » Ah, sympathique. Mais parfois, peut-être qu'il a fait un petit enregistrement. Et quand vous entendez sa voix, même s'il est loin, sa voix vous réjouit. Il y a quelque chose de plus, j'ai entendu sa voix. Il y a quelque chose de sa présence qui était plus intense encore. Eh bien, lorsqu'on proclame la parole de l'Évangile à la messe, il y a quelque chose même de plus intense que cet enregistrement qui peut réjouir notre cœur, qui peut nous associer à cette présence de Jésus qui rejoint notre parole, qui rejoint notre vie aujourd'hui. Alors je vous invite à faire cette expérience. Lorsque vous venez à la messe, lorsque vous vous préparez à entendre l'Évangile, à dire « Seigneur Jésus, je crois, c'est toi qui t'adresses à moi aujourd'hui. J'entends peut-être la voix du prêtre, mais c'est toi, Seigneur Jésus, qui t'adresses à moi aujourd'hui. C'est toi qui me parle à moi, Marie, qui me parle à moi, Céleste, qui me parle à moi, Louis, qui me parle à moi, Maxime, c'est toi, Seigneur, qui me parle, je crois. Seigneur Jésus, nous croyons que tu t'adresses à nous aujourd'hui, avec la même intensité, avec le même sérieux, avec la même grâce que lorsque tu marchais sur la terre d'Israël. Accorde-nous ton Esprit Saint dans la lecture des évangiles. Il en était l'inspirateur. Qu'il soit aussi en nos cœurs cet Esprit Saint, l'interprète pour nous, pour notre vie aujourd'hui. Amen.